Alors sur cette première diapositive, donc Ignace de Loyola, 16e siècle, à ne pas confondre avec Saint Ignace, qui fait partie des pères apostoliques et qui se situe, lui, à la fin du 1er, début du 2e siècle de notre ère. Vous voyez le périple de Saint Ignace de Loyola, en haut à droite. Il a traversé l'Espagne à dos de mule, après sa blessure au combat, pour rejoindre Barcelone, où il voulait partir en Terre Sainte. On y reviendra tout à l'heure. Mais donc, ça vous donne un petit peu de l'idée du périple. Et il a fait étape à Montserrat, au nord de Barcelone, et à Manresa. Ce sont deux lieux très importants dans la vie d'Ignace de Loyola. Donc, il se situe dans les temps modernes. Il est contemporain de Luther et Calvin. On y reviendra aussi tout à l'heure. Donc Ignace de Loyola, on n'y pense pas parce que souvent, surtout en milieu protestant, on le situe toujours comme étant le fer de lance du catholicisme à l'époque de la contre-réforme. C'est vrai que les jésuites ont été utilisés justement par les papes hein, pour installer, réformer le catholicisme, mettre sur pied des collèges, toutes sortes d'institutions. Mais Ignace de Loyola a grandi à une époque de bouleversement en fait, les bouleversements de la Renaissance avec l'utilisation de l'imprimerie. La Bible va être largement imprimée, la Bible de Gutenberg, il nous en reste je crois 80 exemplaires. Avant, il faut bien imaginer que les écrits étaient copiés, recopiés à la main dans les monastères. Donc l'imprimerie va permettre de faire connaître les idées des réformateurs beaucoup plus rapidement. Et puis c'est les progrès scientifiques, les cartes maritimes qui se développent, la boussole aussi qui existait depuis un certain temps mais qu'on va utiliser pour les grandes découvertes. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb à la fin du XVe siècle. Et d'ailleurs le frère aîné de Saint Ignace a participé à la première expédition de Christophe Colomb. Donc en 1492. Saint Ignace est né donc dans le Pays Basque, dans une famille noble. Il était le 13e enfant. Il va perdre sa mère très jeune. Il avait 7 ans, son père à l'âge de 15 ans. Et donc il se trouve orphelin très, très tôt. Il va être élevé par un oncle et puis par un gentilhomme de leur connaissance. Il va grandir auprès de la cour du roi et son grand rêve, comme le rêve de tous les jeunes hommes de l'époque, c'était d'être chevalier, d'être un vaillant chevalier, couronné de gloire et d'exploits. Et c'est ce qu'on lit dans sa biographie. Jusqu'à la 26e année de sa vie, il avait dicté sa biographie. Donc il fut un homme adonné aux vanités du monde et principalement, il se délectait dans l'exercice des armes avec un grand et vain désir de gagner de l'honneur. Mais en tout cas, ses rêves vont se briser quand il est blessé lors de la bataille de Pampelune en 1521. C'est le premier boulet qu'il reçoit dans sa vie, comme disait un de ses biographes. Ce boulet lui pulvérise une jambe. Vu l'état de la science médicale à l'époque, l'opération va être une véritable boucherie, va être réopérée, etc. Enfin, ça va le laisser invalide. Et à partir de là, il comprend qu'il ne sera jamais justement ce grand chevalier qu'il rêve d'être. Et donc, pendant sa convalescence, il s'ennuie. Donc, il lit. Et il lit des ouvrages militaires, d'exploits militaires, et aussi des ouvrages religieux qui se trouvaient dans cet endroit. Notamment « La vie de Jésus-Christ » de Ludolf le Chartreux. Cette vie de Jésus-Christ était très connue à l'époque. C'était des extraits des évangiles, en fait. Et l'autre ouvrage, c'est « La légende dorée ». Comme le dit son nom, « La légende dorée » n'a pas très bonne presse dans les milieux protestants, parce que ce sont des récits très hagiographiques, très exagérés, semble-t-il, de la vie des saints. Et puis sa convalescence va traîner, elle dure presque un an. Et pendant cette période, il apprend une chose qui va le marquer toute sa vie, c'est qu'il doit gérer ses pensées. Il se rend compte que quand il lit des ouvrages mondains, tous ces exploits de chevalerie, son esprit reste assez sec. Alors que quand il lit des ouvrages spirituels, comme la vie des saints, la vie... de Jésus-Christ de Ludolf le Chartreux, il a un esprit beaucoup plus ouvert, porté vers les choses d'en haut, positif. Et donc il dit, voilà, quand je pense à ce qui est du monde, je m'y complais beaucoup, mais quand je suis fatiguée et que je cesse d'y penser, je me trouve aride et insatisfait. En revanche, quand je médite sur la vie des saints, je reste satisfait et allègre. Donc ça, cette première grande leçon qui va marquer toute sa vie, c'est faire le tri dans mes pensées. Est-ce qu'elles me tirent vers le haut ou vers le bas ? Et puis à cette époque, donc, il médite beaucoup, bon, il n'a que ça à faire, hein, puisqu'il est, encore une fois, il est au lit, il regardait le ciel, les étoiles, etc. Et il en ressentait un très grand élan pour servir notre Seigneur. Alors en 1522, donc ça va mieux, ça fait un an qu'il se repose, il projette d'aller à Jérusalem. Son grand rêve, c'est de marcher sur les pas du Christ. Les lieux saints à l'époque étaient gardés par les Turcs, donc c'était compliqué. Donc avant d'aller à Jérusalem, il fallait se rendre à Rome pour demander une autorisation au pape, lequel déléguait le supérieur des franciscains d'accueillir ceux qui venaient, les comptabiliser, etc. C'était toute une procédure à respecter. Et donc il va faire une étape à l'abbaye de Montserrat au nord de Barcelone, complètement au bout, là, il a fait son petit périple à dos de mule, et puis il a besoin de repos, de méditer pendant 10 mois, un an à Manresa, c'est juste à côté. Manresa, c'est un lieu très important pour les jésuites en région parisienne, un centre, un lieu de retraite, d'édification, d'études, qui s'appelle Manresa, puisque c'est le lieu de la formation d'Ignace de Loyola. Et donc là, il lit encore, notamment Thomas Kempis. Thomas Kempis, c'est un enfant de la dévotion, ce qu'on appelle la dévotion moderne. C'est une dévotion qui insiste beaucoup plus sur l'intérieur, le vécu, la spiritualité, la relation à Dieu, plutôt que sur les rites, le clergé, les processions, etc. L'Église catholique au XVe siècle, elle met encore beaucoup l'accent quand même sur les rites et les processions. Et Thomas Kempis est parfois cité parmi les précurseurs de la réforme. Il a beaucoup marqué Luther, Calvin et d'autres réformateurs. Donc il est l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ. Mais Thomas Kempis va accompagner Saint Ignace pendant toute sa vie. Et Thomas Kempis a un discours qui annonce aussi celui de Saint Ignace. « À quoi bon les discussions théologiques sur la Trinité ?» si tu manques d'humilité et que par là tu déplais à la Trinité. Non, ce ne sont pas les discours savants qui élèvent l'âme, mais une vie vertueuse et agréable à Dieu. J'aime mieux avoir la componction que d'en savoir la définition. La componction, c'est un vieux terme théologique qui signifiait la tristesse d'avoir offensé Dieu. Aujourd'hui, on parlerait plus peut-être de repentance. Car même si tu savais par cœur toute la Bible et toutes les sentences des philosophes, à quoi te servirait tout cela sans l'amour et sans la grâce de Dieu ? Donc un message qu'on retrouvera sous différentes formes chez Ignace de Loyola, mais en tout cas cette imitation de Jésus-Christ qu'on trouve toujours aujourd'hui dans les librairies évangéliques et ailleurs, elle va marquer son époque. Ça a été l'ouvrage le plus édité après la Bible. Donc pendant son séjour à Manresa, donc il est isolé, il vit à l'hôpital, il visite les malades, les pauvres. L'hôpital rassemblait à l'époque un peu toute la misère du monde. Il commençait à avoir quelques personnes autour de lui avec lesquelles il échangeait aussi de son expérience spirituelle. Et puis il situe vraiment sa conversion pendant cette période, hein, les yeux de mon esprit commencèrent à s'ouvrir. Ce n'était pas une vision, mais je compris beaucoup de choses concernant la vie spirituelle, la foi et la science, et cela en une telle illumination que toutes ces choses me parurent nouvelles. Il commence aussi à cette période à écrire son expérience, et ça va être le cœur ensuite de ce qu'on appelle les exercices spirituels, une sorte d'ouvrage pédagogique, hein, qu'on évoquera après. Son idée, c'est d'aider les autres. En 1523, donc c'est l'année, c'est le pèlerinage en Terre Sainte. Donc j'abrège parce que tout a été très long. Il faut imaginer que les voyages étaient très longs à l'époque. Il fallait attendre que la mer soit suffisamment calme pour pouvoir partir. Donc il a attendu beaucoup à Venise. Les Turcs sillonnaient la Méditerranée, etc. Tout était extrêmement compliqué. Et lorsqu'il arrive en Terre Sainte, c'est pour lui, c'est une bénédiction de marcher sur les pas du Seigneur, sauf qu'il aurait aimé rester. Première grosse déconvenue, parce que le supérieur des franciscains lui dit « Oui, vous me dites que c'est la volonté de Dieu que vous restiez ici, vous sentez que c'est la volonté de Dieu que vous restiez ici plus longtemps que 15 jours, mais moi je vous dis que c'est la volonté du pape que vous partiez au bout de 15 jours. » Parce que moi, je dois respecter les ordres du pape. Donc il est extrêmement déçu et il doit quitter, donc mettre fin à son voyage en Israël. Donc à son retour, il veut étudier parce qu'il n'a pas eu de véritable formation jusque-là, à part une formation en quelque sorte d'autodidacte. Et son but, c'est d'aider les âmes. Il veut aider les âmes et il a une devise qui est très proche de celle qu'aura Calvin. Sa devise, c'est « pour la plus grande gloire de Dieu ». Et la devise de Calvin, c'est je l'ai oublié. « À Dieu seul la gloire » ou quelque chose comme ça. Je la retrouverai peut-être plus précisément. « Pour la plus grande gloire de Dieu et à Dieu seul la gloire », quelque chose comme ça. Donc, il veut étudier dans les universités d'Espagne, Barcelone, Alcala, Salamanque. L'autre boulet là-bas qui va lui tomber dessus, c'est que l'Inquisition est à ses trousses parce qu'il est suspecté d'illuminisme. Il faut savoir qu'en Espagne, il y avait un mouvement qu'on appelait les Alumbrados, les Illuminés en gros, et que l'Inquisition est restée très active. En France, non, parce que c'est le roi de France, Philippe le Bel, dès l'affaire des Templiers au début du XIVe siècle, qui met la main sur l'Inquisition et qui s'occupe de châtier les hérétiques, les sorcières, etc. Les protestants ne seront pas chassés par l'Inquisition en France, mais par la justice du roi, tout simplement. Mais en Espagne, elle est restée active jusqu'au XIXe siècle. D'ailleurs, le protestantisme ne s'est jamais installé en Espagne. Et donc, l'Inquisition avait tendance à avoir des hérétiques un peu partout. Dès qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas rattachées à un ordre, qui n'étaient pas instruites, qui n'avaient pas de diplôme académique, ces personnes risquaient d'être inquiétées par l'Inquisition. Donc il connaît la prison et puis il se dit « il faut absolument que je me forme, il vaut mieux que je m'éloigne de mon terroir avec l'Inquisition qui est très vaillante en Espagne ». Donc il regagne Paris. Et donc à Paris, il va poursuivre ses études, il a déjà un certain âge, donc il est parfois avec des très jeunes, et il a probablement rencontré Calvin, on sait pas très bien, mais Calvin était sur Paris à la même période. Il rencontre aussi le noyau des futurs jésuites. Donc en 1533, je résume, il y a eu un scandale, c'est l'affaire Nicolas Cop. Nicolas Cop, c'était le recteur de l'Université de Paris, et lors de son discours de rentrée en septembre 1533, il a des propos qui laissent penser qu'il rejoint les idées de la réforme. Donc, branle-bas de combat, Nicolas Cop se sauve à Bâle. Et l'année suivante, autre tragédie, c'est l'affaire des placards. Les placards, ce sont des affiches, comme celles que vous voyez en bas. Article véritable sur les horribles, insupportables abus de la messe papiste. Donc, on ne sait pas très bien d'où viennent ces placards, mais il se trouve qu'ils ont été apposés partout dans Paris et jusque sur la chambre du roi à Amboise. Il était à ce moment-là à Amboise. Et donc le roi, c'est François Ier. Il voit rouge, parce que même s'il n'était pas forcément très très versé dans le catholicisme, il est quand même le défenseur de la foi chrétienne. Tous les rois de France sont sacrés et s'engagent lors de leur sacre à protéger la religion catholique. Ce sera le cas jusqu'en 1825. Et donc François Ier, il n'échappe pas au lot. Et donc il veut absolument sévir après cette affaire des placards. D'ailleurs, Calvin s'est aussi sauvé à Bâle à ce moment-là. Alors Ignace et ses amis se rendent bien compte que dans l'Église catholique, il y a beaucoup de faiblesses. Et leur souci, c'est de réformer l'Église de l'intérieur. Donc, ils veulent former des hommes pour servir l'Église pour la plus grande gloire de Dieu. Donc, Ignace est ensuite ordonné prêtre à Venise. Là, ils voulaient aller voir le pape. Donc, il va voir le pape Paul III en 1540, parce qu'il se rend compte que s'il veut être tranquille au niveau de l'Inquisition, il doit faire approuver son ordre par le pape. Et donc, il fait approuver son ordre. Il faut savoir que les jésuites, ils prêtent 4 vœux, un vœu de plus que les autres. Il y a le vœu d'obéissance au pape, un vœu d'obéissance particulier au pape. Et donc, ça le fait parfois, ça les fait mal voir des autres ordres. C'est la raison pour laquelle les jésuites ont eu tellement de tracasseries à travers l'histoire. Et des tracasseries qui venaient des milieux laïcs, mais pas que des milieux laïcs, qui venaient aussi des autres ordres religieux. Ils ont suscité aussi beaucoup de jalousie. Donc, c'est le contexte du Concile de Trente, qui dure de 1545 à 1563. Pas 18 ans de manière continue, mais en gros, il y a une session, un arrêt, une session. Et donc, l'Église catholique, elle est attaquée, et chaque fois, elle réaffirme ses principes traditionnels, notamment sur la transsubstantiation, sur le célibat des clercs également. Alors, l'héritage d'Ignace, c'est de nombreuses lettres. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à Rome, là aussi, il a une déconvenue parce qu'il aurait aimé retourner en Terre Sainte, mais il le voulait, il se disait quand même, le pape, c'est le serviteur de Dieu, il est à la tête de l'Église, il saura mieux que moi où est ma place et où est la place de mes compagnons. Parce qu'il avait un groupe autour de lui d'une dizaine de personnes qui... Certaines de ces personnes, il les avait rencontrées à Paris, d'autres en Espagne, d'autres en Italie. Et donc, il est quand même très, très déçu de ne pas pouvoir retourner en Terre Sainte. Donc, il va s'établir, il va rester à Rome très longtemps, puisqu'il va être le préposé général de la compagnie, ce qu'il ne voulait pas non plus. Il ne voulait pas au départ créer un ordre, il ne voulait pas être le chef. Bon, les choses vont évoluer dans ce sens-là, il va l'accepter, mais au début, ça n'était pas de gaieté de cœur. Alors, on dit toujours que la spiritualité d'Ignace, c'est d'être un contemplatif dans l'action. Pourquoi ? Parce que les jésuites sont très actifs partout, dans tous les milieux. On les voit dans la médecine, dans l'éducation, dans la recherche... dans tous les milieux, sans tenue particulière. Il ne voulait pas avoir une tenue particulière. Et à Rome aussi, il va mettre sur pied des œuvres de charité, une maison de réinsertion pour les prostituées. D'habitude, on les enfermait dans les couvents, les prostituées. Ignace a voulu un lieu plutôt ouvert pour qu'elles puissent se marier, etc. Orphelinat, établissement pour les pauvres. Vous voyez à gauche la vie de Saint-Jean-François Régis, apôtre du Vivarais et du Velay, que certains connaissent bien. L'an dernier, j'ai fait l'itinéraire, non pas pour aller m'incliner devant toutes les croix mentionnant Saint-Jean-François Régis, mais il y a une magnifique randonnée en Ardèche qui s'appelle le circuit de Saint-Jean-François Régis. Et au mois de juin, c'était vraiment magnifique. Mais donc, Saint-Jean-François Régis était jésuite et il avait pour mission de ramener dans le giron du catholicisme les brebis égarées de Haute-Loire, enfin à l'époque c'était pas la Haute-Loire, c'était le Vivarais, le Velay, de les ramener dans le bon giron du catholicisme. Saint Jean-François Régis est mort très tôt de la tuberculose ou d'une pneumonie. Il a bravé les tempêtes, la burle et même les loups, c'est ce qu'on raconte hein, en Haute-Loire. À droite, vous avez la vie de Saint Jean-François Xavier, qui est très connu aussi, puisqu'il a évangélisé le Japon. Je crois qu'il est mort martyr au Japon. Mais donc oui, ils sont présents encore aujourd'hui. Vous avez des établissements jésuites qui ont très bonne réputation. Alors ils sont aussi critiqués, mais aussi jalousés, comme... à Sainte-Geneviève, à Versailles, Ginette, hein, c'est une très bonne classe préparatoire, c'est jésuite, il y en a plein d'autres. Monsieur Macron a été formé dans un établissement jésuite. Bon, je ne sais pas si c'est une référence, mais à Amiens, il était formé dans un établissement jésuite. Et au XIXe siècle, toute l'élite de la société était formée dans les établissements jésuites, et voire au-delà. Je pense De Gaulle aussi, et beaucoup d'autres. Donc, revenons-en à l'ouvrage par excellence d'Ignace de Loyola, donc les fameux exercices spirituels. Alors, le titre, c'est vrai, exercices spirituels, ça peut sembler un peu rébarbatif, mais c'est un ouvrage à vocation pédagogique au départ pour connaître la volonté de Dieu, que ce soit pour sa vie propre ou que ce soit pour une communauté aussi. Ça peut se faire à l'échelle d'une communauté. On appelle exercice spirituel toute manière de préparer et de disposer l'âme pour écarter de soi tous les attachements désordonnés, puis quand on les a écartés, chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie pour le bien de son âme. L'idée, c'est que Dieu parle à l'homme dans son cœur, en fait, dans son affectivité, dans son ressenti. Et Ignace dit au début de cet ouvrage de pédagogie, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement. Ça, c'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque. D'autant plus, oui, quand on pense que c'est Ignace de Loyola qui le dit, on mettait quand même l'accent sur la doctrine. L'Église catholique avait l'habitude de mettre l'accent sur une certaine doctrine, et ce sont les certains individus qui, eux, avaient un message un peu différent. Alors, Ignace n'a pas pu aller jusqu'au doctorat à cause de ses problèmes de santé. Il a eu une maîtrise en théologie à Paris, ce qui a pu un petit peu le soulager par rapport aux soucis avec l'Inquisition. Alors, les exercices spirituels, ça peut être suivi en 4 semaines, en 3 jours, en 5 jours. Mais normalement, dans l'ouvrage d'Ignace, ça se fait en 4 semaines pour des prêtres qui veulent confirmer une vocation, par exemple. Alors, la première semaine, tout était bien structuré. Il faut se sentir aimé, créé, pécheur et pardonné par Dieu. La deuxième semaine, il faut s'engager à suivre le Christ en l'aimant toute sa vie. Troisième semaine, méditer sur la passion du Christ. Et la quatrième semaine, méditer sur la résurrection. Et puis, Ignace insiste beaucoup sur le fait qu'il faut se mettre dans la scène. C'est pour ça qu'il voulait tellement rester en Terre Sainte et voir les endroits où le Seigneur avait marché. Parce que pour lui, c'est très important de se mettre dans la scène. Quand Jésus rassemble les foules, où est-ce que je serais, moi, si j'étais là? Est-ce que je serais devant, derrière? Je serais méfiant? J'accueillerais ce message, etc. Donc, il dit, voilà, il faut favoriser une relation d'intimité avec Dieu. C'est ce qu'il appelait le colloque. Et dans ces moments donc, de vie spirituelle, il faut discerner ce qu'il appelle les motions du Saint-Esprit et celles du malin, motions de consolation et de désolation. C'est un peu, on pourrait dire, les mouvements, ce que nous inspire, comment on est inspiré vers le bien, vers le mal. J'appelle consolation toute augmentation d'espérance, de foi et de charité, et toute allégresse intérieure qui appelle et attire aux choses célestes et aux biens propres de l'âme, en la reposant et en la pacifiant dans son Créateur et Seigneur. J'appelle désolation, ténèbres de l'âme, troubles intérieurs, motion vers ce qui est bas et terrestre, inquiétude devant les diverses agitations et tentations qui poussent à perdre confiance, sans espérance, sans amour. L'âme s'y trouve toute paresseuse, tiède et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Car comme la consolation est à l'opposé de la désolation, les pensées qui naissent de la consolation sont également à l'opposé des pensées qui naissent de la désolation. Ça rejoint ce qu'il avait découvert tout au début, en fait, hein, pendant sa convalescence, après sa blessure au combat. Alors oui, il prolonge, le propre du mauvais esprit, c'est de tourmenter, de causer de la tristesse, d'élever des obstacles, etc. C'est le propre du bon esprit de donner courage et force, inspiration, sérénité, diminuant et écartant toute difficulté afin d'avancer sur le chemin du bien. Qu'est-ce qui me tire vers le haut? Qu'est-ce qui me tire vers le bas? Et les formules qu'il utilisait dans ses fins de lettres, il a écrit près de 7000 lettres, résument bien en fait. Hein, il disait que Dieu, dans sa bonté infinie, vous accorde la grâce parfaite de sentir à chaque instant sa très sainte volonté et de l'accomplir entièrement. Donc la grâce parfaite se résume en deux points, le don de sentir, c'est une chose de sentir, mais aussi la volonté ensuite d'exécuter ce qui plaît à Dieu. Alors il conseille aussi, c'était assez sage, hein. Maintenant on a remis du Saint-Ignace de Loyola et des exercices spirituels à toutes les sauces, en pédagogie, en psychologie, en gestion du temps, etc. Mais c'est assez intéressant ce qu'il disait, en période de désolation, ne jamais faire de changement, mais s'en tenir avec fermeté et constance aux décisions et à la détermination dans laquelle on était pendant la consolation qui a précédé. Car dans la consolation, c'est surtout le bon esprit qui nous guide et nous conseille. Et dans la désolation, c'est le mauvais. Donc oui, faire très attention à nos décisions. Si je prends une décision un jour de déprime, de désolation, je risque fort d'être conduit sur un mauvais chemin. Mais par contre, voilà, ne pas rester passif, il faut quand même faire face à cette désolation. Et ça aussi, c'est très intéressant, la façon dont il évoque à l'époque, on parlait des directeurs spirituels, des accompagnateurs spirituels. Aujourd'hui, on parle plutôt d'accompagnement spirituel. Il dit que l'accompagnateur spirituel n'a pas à violer la conscience de l'autre. Il n'a pas à lui dire ce qu'il doit faire, mais il doit plutôt faire confiance en Dieu et croire que c'est Dieu qui va parler à l'âme de l'autre. Et ça, vraiment, à l'époque, c'est très, très, très novateur. Il est bien meilleur que le Créateur et Seigneur se communique directement à l'âme fidèle, l'embrassant dans son amour et sa louange et le disposant à la voie où elle pourra mieux le servir ensuite. Le directeur ne doit pas se tourner ou incliner vers un parti ou vers un autre, qu'il laisse le Créateur agir sans intermédiaire avec la créature. Donc il ne met pas l'accent sur les sacrements comme l'Église avait tendance à le faire. Et donc cette pratique des exercices spirituels, elle peut se faire aussi à l'échelle d'une communauté. C'est ce qu'Ignace et ses compagnons ont fait pour savoir s'ils devaient déjà mettre sur pied une communauté et s'ils devaient avoir un chef à la tête de cette communauté. Alors donc je résume un peu. Hein. D'un côté, ils ont brossé le tableau des avantages. Si on a une communauté, on sera reconnu, etc. On saura à qui on a affaire. Après, ils ont mis tous ces éléments, ils les ont listés, ils se posent, ils prient, ils attendent. Et puis, je ne sais pas, quelques semaines après, ça a duré longtemps, hein, leur délibération, quelques semaines après, ils se retrouvent, ils dressent le tableau des arguments contre la mise sur pied de cette communauté. Ils écoutent tous les arguments, hein, donc ils notent tout ça. Même chose, ils prient, ils attendent, ils n'en parlent plus, et puis quelques semaines après, ils se retrouvent et ils doivent viser à l'unanimité. Et malheureusement, avec cette technique, donc ils ont mis sur pied, enfin malheureusement non, Ignace, lui, n'avait pas très envie, mais il s'est rangé à la vie il s'était abstenu de voter, il s'est rangé à la vie de la collectivité. Et donc, ils ont fondé la communauté des jésuites et Ignace, ensuite, a été élu préposé, donc directeur général de cette communauté, alors qu'il n'avait pas très envie de s'occuper de tout le volet administratif, l'envoi des jésuites dans le monde, la correspondance avec le pape, avec les diocèses, etc. Mais voilà, il a dû se ranger, encore une fois, à la vie de la communauté. L'éveil n'avait pas manqué, bien des prières et des fatigues spirituelles et corporelles avaient précédé cette délibération définitive. C'est ce qu'on appelle la délibération des compagnons d'Ignace. Donc le bilan, j'ai résumé rapidement l'apport d'Ignace, donc c'est un résumé, hein. Volonté d'aider les âmes pour la plus grande gloire de Dieu. Un souci de développer l'intimité avec Dieu, parler avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Un appel à trouver Dieu en toute chose. Ça aussi, c'est un discours assez récurrent chez lui. Il faut trouver Dieu en toute chose, que les circonstances soient bonnes ou moins bonnes. Parce que des circonstances moins bonnes, il en a connu beaucoup aussi, et il a dû s'adapter. Et donc, une spiritualité du quotidien, ouverte à tous, à une époque où on avait tendance à réserver une spiritualité supérieure plutôt pour les ordres religieux. Alors ça, vous pourrez le lire chez vous, comment les exercices spirituels ont été recommandés par les papes à travers le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière d'abandon de Saint Ignace. C'est assez connu parce que le pape, vous le lirez aussi tranquillement chez vous, c'est le pape François qui avait offert cet ouvrage à tous les membres de la curie romaine il y a quelques années à Noël. C'était une réédition du supérieur des jésuites Claudio Acquaviva des années 1600, un petit ouvrage qu'on remettait à tous les novices avec certains principes pour gérer la vie communautaire, la relation à Dieu, etc. Et donc il y avait toutes les maladies spirituelles. La presse en avait beaucoup parlé parce qu'on voyait à l'époque tous ces braves cardinaux qui jugeaient sévèrement le pape François. Et il parlait de la tête, la maladie de la tête d'enterrement. Et on voyait bien qu'il visait des gens qui existaient. Enfin, d'après les comptes rendus de la presse, c'était visible. Et donc voilà, pour aller plus loin, l'ouvrage de Ravier à gauche est très bien, Ignace de Loyola et l'art de la décision. Ça se lit presque comme un roman, c'est une biographie émaillée de citations. Les exercices spirituels, le secret des jésuites, le titre est un petit peu racoleur, c'est plus l'histoire des exercices spirituels, mais ça nous plonge bien dans le contexte. Et puis, vous avez toutes sortes d'ouvrages sur les exercices spirituels maintenant. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez faire aussi SCAS, une formation que j'ai suivie qui est très bien, que je recommande, avec les Schweitzer, qui existent en France et en Suisse. Et voilà, on vous donnera aussi une bibliographie sur ce personnage, qui est un personnage quand même très attachant, que moi j'avais catalogué, parce que je suis d'origine catholique, j'avais eu tendance à le cataloguer comme étant un horrible papiste, apôtre de la contre-réforme, et quand on connaît sa vie, on se rend compte qu'il a des choses à nous apporter, Ignace de Loyola.